Bonsoir tout le monde, bienvenue pour les soirées événements du Pavillon de France. Alors ce soir, on est ravis de vous accueillir pour un film qui, je pense, parle d'une personne que vous avez peut-être reconnue sur Auroville, ce qui nous a fait l'honneur d'être présent avec nous sur Auroville, Marc Vella, un artiste pianiste qui fait des sons absolument extraordinaires avec son piano et quelques autres instruments. Et aujourd'hui, on parle de son projet de la caravane amoureuse qu'il fait depuis plusieurs années maintenant. Et on a avec nous Antoine qui est...
qui est aurovilien.
Presque. Quelques semaines, aurovilien. Et voilà, on a la chance d'avoir Antoine avec nous qui a participé à plusieurs caravanes et qui peut nous en dire un petit peu plus sur ce projet de manière générale, de quand est-ce qu'il a commencé et quelle est la vision finalement de ce projet et de plus spécifiquement celui en Éthiopie. Et il a même fait une petite présentation pour vous avec un petit PowerPoint et des petites images pour vous expliquer plus ça en détail. Donc voilà, je vous laisse avec Antoine. Merci.
Bien, bonsoir à tous. Effectivement, je connais bien Marc Vella puisque j'ai participé à 3 caravanes amoureuses. La première étant en Inde, en 2013. C'est ce qui a été pour moi l'occasion de découvrir l'Inde et Auroville et qui fait que je suis aujourd'hui ici parmi vous. Donc je vais rapidement, avant de visionner le film sur la caravane amoureuse en Éthiopie, vous présenter, vous rappeler qui est Marc Vella et qu'est-ce que c'est que la caravane amoureuse. Donc Marc Vella, c'est un pianiste virtuose, compositeur, grand improvisateur, mais c'est surtout un pianiste nomade qui depuis l'âge de 25 ans parcourt le monde avec son piano à queue et en 30 ans il a fait plus de 250 000 km, ce qui correspond à 6 fois le tour de la Terre avec son piano à queue. Et son but, c'est de célébrer l'humain, c'est d'aller à la rencontre de l'humain, c'est pas du tout de se produire dans des salles de conférences, dans des salles de concerts, hein. C'est vraiment d'aller au contact de l'humain, de découvrir d'autres humains. Et alors, Michael évoquait des petits accessoires qu'il a pour faire des sons bizarres avec son piano. Il a créé donc ces accessoires qu'il appelle des variacordes, qui pour lui sont le moyen de ramener avec lui, à travers son piano, les sons des pays qu'il a visités. Outre le fait d'être pianiste, c'est un conférencier, il donne beaucoup de conférences, de concerts-conférences, et c'est un écrivain. Il écrit sur son histoire, mais il écrit aussi sur sa perception de l'humanité, de ce que c'est qu'un être humain. Et puis, il organise nombre de stages. C'est comme ça que moi je l'ai rencontré, des stages où il vous enseigne à improviser au piano en 2 jours, même si on n'a jamais fait de piano, ce qui est quand même assez fabuleux. Et à force de faire des voyages à l'étranger, de montrer à travers des films, des projections et d'en parler dans ses conférences, de montrer ce qui se passait quand il partait à la rencontre des humains ailleurs, est né l'idée d'une caravane amoureuse, parce qu'il y a des personnes qui lui ont dit bah, « Ce que tu fais, c'est génial. Moi, si je pouvais venir avec toi, être petite souris, me cacher dans ton piano. » Et du coup, il a décidé de créer la caravane amoureuse, qui est donc un projet de partir en caravane, avec des bus, toujours avec le piano à queue, à la rencontre de l'humain. Et aussi, donc son but, c'est de montrer l'humain et c'est de montrer les personnes, les femmes et les hommes qui s'engagent pour améliorer notre monde et pour aller vers plus de paix, plus de conscience, plus de solidarité. Et la caravane amoureuse est placée sous l'égide de l'UNESCO dans le cadre de la décennie 2000-2010 pour plus de paix dans le monde. La première caravane amoureuse a eu lieu en 2004. Alors, je vais vous parler maintenant plus précisément de la caravane en Éthiopie, qui a donc eu lieu en novembre 2015, juste pour resituer l'Éthiopie sur la carte. Et nous sommes allés dans le sud, dans la vallée de l'Omo, puisque le but de cette caravane, c'était une caravane un petit peu différente des autres, puisqu'en général, la caravane part à la rencontre de l'humain au travers d'associations, au travers de structures, au travers de personnalités particulières. Là, l'idée, c'était d'aller à la rencontre des peuples tribaux qui vivent dans la vallée de l'Omo, qui sont parmi les derniers au monde à vivre selon leur tradition ancestrale, et qui, dans 10 ans, dans 20 ans, disparaîtront peut-être. Donc c'était aussi une opération, une occasion assez unique. Donc vous voyez, je ne vais pas vous le détailler, mais l'itinéraire, nous sommes partis d'Addis Abeba, descendus jusqu'en bas, et c'est surtout en bas qu'il y a ces fameuses tribus. Nous avons d'abord rencontré les Dorzé, les Conso. Alors les Conso, c'est très intéressant, c'est une ethnie d'à peu près 300 000 personnes. Il y a une particularité dans cette ethnie, c'est que la femme est vraiment considérée comme l'égale de l'homme. Et ça, c'est très très fort.
C'est un cauchemar.
Non. Après, nous sommes vraiment allés vers les tribus qui vivent de façon encore plus primitive, plus ancestrale, avec les Amers, puis les Caro, et enfin les Murci, avec les femmes qui portent des plateaux dans la lèvre inférieure. Donc dans le film, tout ça sera un petit peu dans le désordre. Hein. Le film ne suit pas la chronologie de la caravane. Voilà, et juste avant de passer au film, juste pour vous introduire la prochaine caravane qui est prévue théoriquement en août 2018 dans les Himalayas. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui, Tom ? Bien sûr que tu peux venir. Il faut juste que tu ailles faire les week-ends de préparation en France. Non, mais bien sûr que tu peux venir. Et si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez me contacter. Je suis toujours en lien très étroit avec Marc. Voilà. Donc nous pouvons maintenant passer au film. Juste avant de le regarder, je tiens à vous préciser que c'est un film d'amateur. Il a été tourné, les images ont été prises par un caméraman qui suit Marc depuis très longtemps, et puis par un autre caméraman avec qui nous avons co-organisé le film, la caravane, mais c'est un film d'amateur. Le montage a été fait essentiellement par Marc lui-même. Donc je vous souhaite un bon film, et après nous pourrons prendre quelques moments pour des questions-réponses, parce qu'il y aura peut-être des choses qui vous interpelleront dans ce film. Bon film. Si vous avez des questions.
J'étais la connue.
Qu'est-ce que tu dis ?
J'étais la connue.
Tu m'as reconnu, oui. Il y a quelque chose qui nous a tous frappés. Marc en parle un peu. Donc, on a ces tribus qui vivent encore selon leurs rites ancestraux. Mais malheureusement, les tours opérateurs qui amènent tous ces 4x4 sont vraiment en train de les transformer en mendiants. Et même avec les Hammers, où nous avons eu la chance de rester 3 jours, de nouer des contacts forts, même au dernier moment, quand nous partions, ils étaient toujours à mendier, à vouloir nos t-shirts, à vouloir des stylos, des bonbons, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment dramatique que ces tours opérateurs, ce système de tourisme, de cette consommation, on a vraiment ressenti cette tribu comme faisant partie d'un zoo humain. Et ça, c'est assez terrible. Toutes les tribus sont comme ça, mais il y en a une particulière, les Murci, où il y avait une énergie un peu différente. Effectivement, ils étaient tous là, les femmes, à vouloir nous vendre leur disque labio, c'était très lourd.
Oui. Il y a des enfants qui étaient armés avec des fusils.
Avec les Kalachnikov, oui. C'était
vraiment
impressionnant. Faut savoir donc que la richesse essentielle, c'est le bétail. Et pour se marier, il y a une dot à porter, et c'est l'homme qui apporte la dot, c'est pas la femme. Et la dot est apportée en bétail. Et ce sont des sociétés comme les Amers, les Murci ou les Caro qui sont polygames. Donc un homme peut avoir jusqu'à 3 femmes, et à chaque fois qu'il va épouser une femme, il doit apporter le bétail en dot. Et donc, d'un village à l'autre, d'une ethnie à l'autre, ils se volent le bétail. Et malheureusement, bah, avec la Kalachnikov, quand ils veulent voler du bétail, s'il y a un gardien, c'est facile de tuer le gardien.
Est-ce que vous avez eu
peur à un moment donné ? De quoi ? Non, aucune peur. Aucune peur. C'est vrai que l'Éthiopie est entourée de pays. Il y a le Soudan, il y a l'Érythrée, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de terrorisme, de fondamentalistes. Pas un seul instant, nous n'avons eu peur. Nous avons toujours été merveilleusement accueillis. Les Éthiopiens sont adorables. Non, nous n'avons absolument pas eu peur.
Est-ce qu'il y a toujours de la famille en Éthiopie ? Parce que là, ils avaient l'air certainement.
Alors, de la famille, je ne saurais pas dire. Ce que nous avons constaté, c'est vraiment le contraste entre ces villages tribaux, où ils vivent en petites communautés et où ils sont très solidaires, et la mégapole d'Addis Abeba, où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de monde, beaucoup de riches et beaucoup de très pauvres, et très peu de moyens pour gérer cette grande pauvreté. L'association Macedonia qui s'occupe de ça est l'un des rares organismes. Il n'y a rien d'organisé au niveau étatique pour prendre en charge toutes ces personnes ultra précaires.
En tout cas, ça a l'air très propre comparé à l'Inde.
Oui.
On n'a pas vu de sacs de plastique dans les champs, on n'a pas vu de poubelles, on n'a pas vu...
Parce qu'il n'y a pas tant de plastique que ça là-bas,
non,
peut-être.
Non, c'est ça, c'est un peu moins pollué.
Je peux répondre à la question, la famille est en train de monter en puissance dans l'est de l'Afrique, ça commence à faire l'éthique des gens, et y compris...
Là, la région que nous avons visitée était quand même une région assez riche au niveau agriculture. Donc on n'a pas eu le sentiment de famille dans les villages que nous avons visités.
Vous étiez quand ? C'était quand ?
C'était en novembre 2015, donc il y a un an et demi.
Vous avez le barrage, vous allez délivrer ?
Je ne sais pas. En fait, je n'avais jamais entendu parler de ce barrage avant de visionner le film. Et ça, ça risque d'être générateur de famine.
C'est quoi la plus grande richesse de l'Éthiopie ?
Bonne question.
Le bétail.
Je ne sais pas répondre.
Il n'y a rien dans les sous-sols, ton site ?
Il y a beaucoup d'agriculture, c'est un pays, enfin du moins la région que nous avons traversée, très très agricole. On a vu dans les villages qu'effectivement il y avait beaucoup d'écologie parce que les chefs sont conscients du péril de la pollution. Et les deux premières, les Dorzé et les Konso, les deux chefs sont allés étudier, le roi des Konso qui disait qu'il est ingénieur en travaux publics, ils sont vraiment allés étudier, ils ont fait des études supérieures et ils ont fait donc consciemment ce choix de revenir vers leur peuple pour s'en occuper et pour préserver, parce qu'ils ont pu voir en allant à Addis Abeba, en allant dans des grandes villes, à quel point tout ça était destructeur. Et donc nous avons été très touchés par le fait que ce n'est pas nécessairement parce qu'ils vivent comme ça qu'ils vont continuer à vivre comme ça, mais parce qu'il y a une conscience de leur chef, de leur leader, de vouloir préserver. Pas d'autres questions ? On a eu froid aussi, c'est très en altitude. Ça vaut être plus près de l'équateur qu'ici.
Oui, c'est vert, c'est
vert,
c'est
incroyable.
Vous restez combien de temps pour partir comme ça ?
C'est variable. Là, on est resté 2 semaines. On aurait pu rester un petit peu plus parce que des fois, on a été frustrés de passages trop rapides auprès des tribus. Mais la tribu des Amer, où nous avons eu ce contact, où nous avons pu rester 3 jours, c'était magnifique de partager ça.
Et vous vous annoncez avant ou vous arrivez directement? Voilà.
Oui, oui. Ça a été organisé, ça a été préparé.
Vous n'avez jamais eu de refus de tribus qui n'ont pas envie ou qui demandent pourquoi? Non, c'est très bien.
Et nous avons, la plupart du temps, été très bien accueillis.
Comment les caravaniers sont recrutés, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de musiciens, de...
Alors, je dirais, être caravanier ne requiert qu'une seule chose, c'est savoir ouvrir les bras et le cœur. Comment sont recrutés, si on peut parler de recrutement? Donc Marc Vella fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de conférences, beaucoup de stages. Il bouge tout le temps en France. Ses stages ne sont pas que chez lui. Il va dans un certain nombre d'endroits. Et partout où il va, il parle, il raconte de son histoire. Il raconte la caravane amoureuse. Et à partir de ce moment-là, s'il y a des personnes qui sont attirées par la caravane amoureuse, il y a sur le site internet ce qu'on appelle le petit questionnaire, qui fait quand même plusieurs pages, que la personne va renseigner et qui va permettre, non pas de faire une sélection, mais d'amener la personne à s'interroger sur ses motivations pour participer à une caravane, et d'amener Marc, sa femme Cathy et l'équipe des organisateurs à commencer à connaître la personne. À la suite de ça, il y a 3 week-ends de rencontres qui sont proposés chez Marc et Cathy, près d'Angoulême, où la caravane démarre effectivement, puisque les candidats caravaniers viennent participer à ces 3 rencontres. Le groupe commence à se constituer. Marc nous explique le sens profond pour lui de la caravane, puisque évidemment nous ne sommes pas là pour faire du tourisme, nous sommes là pour aller rencontrer l'autre. Et c'est comme ça, avec ces 3 rencontres, que se constitue l'équipe. Et bien souvent, il y a des personnes qui vont venir faire 1-2 week-ends et puis qui renoncent parce qu'elles sentent que finalement, ça n'est pas pour elles ou ça n'est pas maintenant.
Il n'y a pas de participation financière? On ne paye pas?
Si, la caravane est autofinancée par les caravaniers. Nous ne recevons pas de subvention ou marginalement, la caravane est autofinancée, sachant qu'il faut payer le transport du piano, la location des bus. On avait une équipe qui nous a accompagnés, une équipe de guides, la nourriture, l'hébergement. Voilà, il y a tout ça à payer. Et il y a certaines personnes dont le voyage est pris en charge gracieusement pour diverses raisons, notamment le couple Jean-Pierre et Marie-Claire de l'ONG Ensemble, avec qui a été organisée cette caravane. Le voyage leur a été offert. Donc ce sont les caravaniers. Cette caravane a dû coûter à peu près 3 000 euros par personne. Donc le coût, c'est entre 2 et 3 000 euros, d'une manière générale.
Est-ce qu'il était aussi des conditions pour voir les peuples, les villages de pays? Vous avez toujours payé les personnes que vous allez voir?
C'est comme ça qu'ils fonctionnent.
Et donc vous n'auriez pas pu les voir si vous ne donniez pas d'argent?
Apparemment, oui. Bon, moi, toute cette transaction, toute cette préparation a été organisée par notre guide à Béliers qui allait à la rencontre avant. Et c'est vrai que cette relation à l'argent est très étonnante parce qu'ils ne font rien avec l'argent. Ils font du troc, ils ont à peu près tout sur place. Il y a des marchés, on est allé sur un marché, tout ça fonctionne avec le troc. L'argent, on se demande...
Les armes.
Ouais, mais ça coûte pas cher une Kalachnikov. Hein. Malheureusement. Donc le prochain qui est prévu à fin de l'été 2018, dans les Himalayas, je n'ai pas de détails pour l'instant sur un éventuel itinéraire. Marc parle du Tibet, mais le Tibet c'est un peu difficile, c'est la Chine. Je le vois mal partir en Chine avec son piano à queue, surtout pour aller au Tibet.
Les routes,
c'est pas un problème, là, vous avez vu, c'est que des pistes, hein. On a fait que des pistes et puis...
Il va attendrir les Chinois de son piano.
Ah, si seulement.
Sûrement.
Si seulement. Donc, je n'ai pas plus de détails aujourd'hui. C'est pour dans un an et demi. Mais dès que j'en aurai, si vous êtes intéressé. De toute façon, vous trouverez toutes ces informations sur le site internet de la caravane amoureuse. Dès que dès que ça va commencer à s'organiser, ça sera annoncé. Voilà.